Bonjour cher Alexandre. Dieu soit béni. Bonjour à Jacqueline et à Biel. Ce serait bien qu'au mois d'octobre, nous allions jusque chez vous. Au mois de septembre, nous serons partis du 12 au 24. Et fin du mois, il y a beaucoup d'activités, maintenant aussi. Mais au mois d'octobre, je pense que nous pourrions faire un petit saut du côté de Charleroi. Et entre le 12 et le 24, nous allons à Meslan, tout près de Blois. Puis ensuite, à Saint-Menou en Allier, tout près de Moulins. Puis ensuite, à La Flèche. Et à Beauvau, une localité juste à côté. Enfin, façon de parler, à côté, à 40 kilomètres. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, grâce soit rendue à Dieu lorsqu'il a mis dans votre cœur l'amour de sa parole. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans votre cœur de l'intérêt pour sa personne, sa divine personne. Et grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans mon cœur, de l'aimer par-dessus tout et de m'investir le plus possible, malgré parfois des grandes difficultés à traverser. En fin de compte, nous sommes dans la louange pour notre Dieu. Nous l'adorons, nous le remercions de ses bienfaits, de sa fidélité. Ce dimanche, nous étions dans une assemblée. Il y a pour le moment peu de personnes de notre assemblée qui sont présentes. J'espère que ça reviendra un peu plus, mais nous ne sommes pas une grosse équipe finalement. Ça se résume à 5 hommes, 5 femmes et parfois quelques-uns alentours qui viennent. Donc finalement, on est maximum 20. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde, dans ce noyau de 10 à 11 personnes, nous sommes très unis et prêts à nous rendre service continuellement et à nous visiter, etc., à fraterniser et aussi à prier. Pour ce qui est de l'école, l'école compte une bonne dizaine d'enfants. Oui, il faut beaucoup prier, mes chers amis, parce que l'ensemble des parents n'est pas chrétien et ne sait. Je pense qu'ils savent très bien ce qui manque à leur vie, il manque à leurs enfants, à la société, et les amène là d'une manière indicible, sans trop savoir pourquoi ils sont poussés de les mettre là. C'est un grand miracle. Des personnes qui sont tout à fait dans l'inconnaissance de Dieu les amènent dans une école chrétienne évangélique. Sans doute que le charisme de Bénédicte et de Véronique et leurs prières, le jeûne aussi qu'elles font, et l'engagement de Vincent aussi à leur côté, et puis le nôtre dans la prière, sans doute que tout cela contribue au ministère de cette école. Mais il y a aussi votre prière, il y a aussi votre soutien spirituel. Ne l'oubliez pas, il est très important. Nous avons l'impression de faire quelque chose un peu comme Lot à Sodome et Gomorre. Nous ne pourrons pas réformer la société, nous ne pourrons pas la changer. Mais nous essayerons tout de même d'apporter le message du salut au plus grand nombre jusqu'au moment où le Seigneur viendra nous enlever comme il a enlevé Lot et sa famille. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a aussi l'école au Pakistan. Je ne suis pas très en mesure de l'aider actuellement. 135 enfants, 3 institutrices, un jeune pasteur qui est très dévoué, qui devrait bientôt se marier au mois d'octobre, et qui n'a rien, qui possède rien pour accueillir son épouse. Tout cela, bien sûr, c'est quelque chose de... c'est un souci pour moi. En dehors de cela, il y a les réfugiés chez nous. Il y en a 8. Il y en avait 10 au départ, 9 sont partis, et maintenant, il y en a revenu des autres. Il y en a 8. Une est restée, et maintenant, il y a 2 dames au culte. Et peut-être bientôt une troisième qui fait des pas tout doucement vers nous, vers l'Assemblée. Ces personnes ukrainiennes n'ont pas connu l'amour de Christ, n'ont pas connu l'amour, l'Évangile, l'amour révélé en Jésus-Christ. On le voit, on le comprend. Mais ce qu'il y a, il y a des grandes grâces qui se passent. Pour 2 au moins, et bientôt peut-être 3 ou 4. Et puis alors, nous avons une clé très forte, formidable, c'est que Alexander, qui est d'origine russe, fait la traduction. Il est là, comme un fidèle serviteur, et parfois il reste tout l'après-midi pour faire des études bibliques avec les personnes qui le souhaitent, de langue ukrainienne et qui savent parler russe. Il est extrêmement dévoué. Et il amène d'autres Ukrainiens d'autre part. Si bien que dimanche passé, nous étions au moins. Il y avait une bonne douzaine de russophones dans la salle de culte. Et dans cela, plusieurs ont subi de grandes tribulations, de grandes épreuves, et ont vécu dans une foi en Christ extrêmement forte. Une dame a témoigné dernièrement, dimanche, pendant une demi-heure, traduction comprise, et puis un frère roumain qui avait été en prison pour sa foi, a témoigné aussi pendant à peu près une demi-heure. Je me suis abstenu de prédication. Nous avons eu des chants. Il y a eu des chants en ukrainien, en russe et en français. Et chaque fois qu'un texte biblique apparaissait sur l'écran, eh bien, il y avait la traduction en dessous en ukrainien et la traduction en russe par Alexander. En ukrainien, de manière écrite sur l'écran. Donc, alléluia, nous sommes contents. Nous sommes contents de l'œuvre spirituelle qui se passe ici. Et ce n'est pas une mécanique à succès, c'est simplement un lieu de rencontre, d'amour, de personnes qui ont souffert ensemble et qui savent comprendre le chemin de Christ dans leur vie. Bon, moi, j'avais un sujet à vous parler. C'était le sujet de la rébellion. Qu'est-ce que c'est que la rébellion, hein, chers amis? D'abord, nous allons prendre Romains chapitre 7, versets 5 à 25. Romains chapitre 7, versets 5 à 25. N'hésitez pas à prendre votre Bible, c'est très important. Ou après, à réécouter, prendre un cahier, noter, travailler, étudier la parole de Dieu. Et vous serez au bénéfice de grandes grâces. Dieu vous fera des grandes grâces dans votre vie. Il vous affermira, il vous purifiera, il vous élèvera. En général, le monde vous abaisse et vous diminue, mais pas le Seigneur Jésus. Romains, chapitre 7. Bonjour Antoinette, bonjour Estelle, et bonjour d'autres, Valérie. Alors, et bien d'autres. Romains, chapitre 7, verset 5. Je voudrais vous parler de la rébellion qu'il y a dans le cœur de l'homme. Lorsque nous étions dans la chair, donc vivant dans des passions, etc., sans le Christ, c'est ça que Paul veut dire, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. C'est-à-dire les péchés, les rébellions contre Dieu sont augmentées dès qu'il y a un règlement pour les sanctionner, pour les limiter, pour les encadrer. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, eh bien, au contraire, je le ferai, je le dépasserai. C'est ça que veut dire Paul. Lorsque nous étions dans la chair, donc avant d'être en Christ, hein, si vous êtes en Christ, vous comprenez. Vous n'êtes pas en Christ, faites attention, écoutez bien aussi, ça peut vous éclairer beaucoup. Les passions des péchés provoqués par la loi, donc les 10 commandements, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Des fruits, c'est-à-dire des mauvais fruits. Le mensonge, l'impureté, l'amour de l'argent, l'arrivisme, etc. Le sexisme et bon, l'orgueil, etc. Et tout cela, si vous voulez, ces fruits sont des fruits pour la mort, c'est-à-dire qui nous séparent de Dieu totalement et qui nous emmènent à l'enfer. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, donc du règlement que Dieu avait donné provisoirement avec Moïse, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Donc, Paul dit que quand on a donné sa vie à Jésus, ce n'est plus la loi qui commande notre âme, nos critères de pensée. C'est tout à fait autre. En fait, c'est le Saint-Esprit. Il faut lire le chapitre 8 qui suit. C'est l'Esprit divin, c'est Dieu qui conduit. Et lui, il est vivant. Dieu est vivant et il conduit l'âme. Il n'y a plus besoin de règlement. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit Saint et non selon la lettre qui avait vieilli, la lettre, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les lois de Moïse. Tout cela a vieilli, son temps est fini. Alors, que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Mais non, pas du tout, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que quand la loi m'a été annoncée, enseignée. Car je n'aurais pas connu la puissance, la force de la convoitise, si la loi ne m'avait dit, tu ne convoiteras pas. Le péché, saisissant l'occasion, c'est-à-dire l'occasion au moment où la loi survient dans ma conscience, le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Les convoitises se développent quand on est dans le règlement et dans le légalisme. C'est ça que ça veut dire. Sans loi, le péché est mort. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre dans le règlement des 10 commandements de Dieu, si réellement nous avons donné notre vie à Jésus. Nous ne pouvons pas adhérer, nous devons laisser ça de côté, parce que le péché n'a plus besoin d'être canalisé par les commandements. Le péché a été porté par Christ à la croix, il a été crucifié, notre péché, nous avons demandé pardon, notre péché a été crucifié, nous sommes rendus vivants par l'Esprit Saint de Jésus-Christ. La puissance de Jésus est venue dans ma vie le jour que j'ai renoncé au péché, que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc à ce moment-là, le péché est mort, c'est-à-dire, même s'il revient parfois, il n'a pas la puissance de me séparer de Dieu et de me opposer, de m'entraîner à haïr Dieu, à le détester et à l'oublier. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais tranquillement. Mais quand le commandement vint, il a été enseigné comme rabbin, etc. Il a fait des écoles rabbiniques très très sévères. Alors, quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Moi je vais vous dire, ayant fait les études pour être prêtre, je peux vous dire que plus on nous disait qu'il fallait rester célibataire pour servir Dieu, plus il y avait des tentations sexuelles et d'impureté. Et plus il y a eu de prêtres qui ont fait des bêtises. Il fallait mettre cette loi de côté. C'était une loi, une ordonnance humaine qui détraquait l'âme, le cœur, l'affection, et beaucoup de prêtres se sont égarés à cause du règlement imposé. Eh bien, c'est la même chose dans le judaïsme. Beaucoup de règlements ont détraqué les consciences. Pensez à Karl Marx avec le marxisme. Il a été sans doute éduqué dans une famille légaliste à Trèves, en Allemagne, à 70 km de chez nous. Pensez à Freud, le père de la psychanalyse. Il s'est révolté contre le milieu d'où il venait. Et pensez à beaucoup d'autres, Einstein, etc. Ils se sont rebellés. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre de tous ces règlements, de ces côtes-là, parce que les côtes de la loi ne font pas connaître Dieu, ne donnent pas de relation. Et ils donnent l'impression d'être brimés, donc ils provoquent la révolte. Donc la loi peut provoquer la rébellion. Pour quelqu'un qui est humble et qui se rend compte qu'il est rebelle, accepte le sacrifice de Jésus. Alors, le salut est acquis par le sang de Jésus à la croix. Continuons à lire ce texte de Matthieu 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais tranquillement, peinard, hein, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, moi je mourus, c'est-à-dire je me suis séparé totalement d'une vraie relation avec Dieu. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, à la rébellion. Car le péché a saisi l'occasion, il me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir, complètement séparé de Dieu. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Alors je continue un peu plus loin. Au verset 15, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Voilà quelqu'un d'honnête, n'est-ce pas? J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Alors, je vous ai dit que le thème, il a fait beaucoup de bruit. Le thème d'aujourd'hui, c'est la rébellion. D'où vient la rébellion? Ben, c'est l'expression même du péché en moi, la rébellion. Et la rébellion peut être très différente d'une personne à l'autre. On peut avoir des personnes très gentilles, très douces, etc. Très braves et tout ça. Et le péché est là aussi. Tout comme un autre qui est un casseur, ou un tueur, ou un voleur, ou un violeur. Le péché est là chez tous les hommes, chez tous. Vous lirez Romains chapitre 3 et vous verrez dans Romains chapitre 3, verset 9, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé tous, juifs ou païens, que nous sommes sous l'empire du péché. L'empire, c'est un dire qu'il y a un empereur. C'est Satan. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse bien, pas même un seul. Il a fallu que j'attende 42 ans pour accepter l'autorité de ces versets. Je croyais en Christ. J'ai l'amour de Jésus. Je lisais l'évangile, mais je n'acceptais pas une condamnation si sévère sur la nature humaine. Mais c'est la nature humaine pervertie par le péché. C'est pas pour ça que Dieu n'aime pas l'homme. Il n'aime pas le péché. Leur gosier, bouche donc, est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin de serpent. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Verset 23, tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement pardonnés, justifiés, déclarés justes par la grâce, le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, la victime propitiatoire, celle qui, lorsqu'elle se donne sur la croix, Jésus se donne sur la croix, il est la victime propitiatoire, nous n'avons plus de colère de Dieu sur nous. Dieu nous est propice. Ensuite, il y a une autre traduction, parfois dans certains textes, expiatoire, victime expiatoire. Là, c'est la victime qui paye la dette que nous avons. Les deux sens vont ensemble, propitiatoire, expiatoire. L'abolition de la colère sur quelqu'un qui s'est donné à Jésus et l'anéantissement, l'abolition de la dette due à Dieu. Voilà le grand cadeau en Jésus-Christ. Si vous savez cela, vous avez compris où est le salut. Quand on se demande pourquoi tant de gens qui se disent chrétiens sont rebelles et ne sont pas vraiment obéissants à l'évangile, en Occident en tout cas, ou part, je ne sais pas, mais c'est devenu une coutume de se dire chrétien tout en obéissant. Enfin, la mécanique spirituelle de la rébellion, c'est ça que j'ai voulu un peu vous décrire. La mécanique spirituelle de la rébellion en pays riche. en pays dissivilisé. C'est quoi la mécanique du démarrage de la rébellion? C'est d'abord par la pensée, évidemment, par les écoles, par les enseignements athéistes, où on dit qu'il n'y a pas de Dieu, et que ça n'en vaut pas la peine, et qu'il n'y a pas de Jésus-Christ, et que Jésus n'est pas fils de Dieu, qui n'est pas mort sur la croix. C'est une belle histoire, c'est un homme remarquable, mais sans plus. C'est l'essaimage de la pensée athéiste. Et ensuite, c'est quoi le développement de la rébellion? Eh bien, c'est que, tout doucement, on finit par se passer de Dieu, finit par se passer d'une distinction entre le bien et le mal, de la vérité divine. Et on croit qu'on a à soi une vérité, tout le monde a sa vérité, tout le monde est libre de choisir sa vérité et de la faire comme il veut. Ainsi, on tombe dans le domaine des coucheries, de la vie souillée, de l'impureté. Tout ce qui est souillé par l'impureté, par les coucheries, par vraiment toutes les mauvaises conduites sexuelles, et par la sexualité hors du mariage, tout cela a, depuis 60 ans, engendré des enfants qui sont dominés, et les psychiatres ne peuvent rien y faire, par des esprits impurs. Quand je dis esprit impur, ce n'est pas une mentalité impure, ça ne serait pas encore assez fort. Il y a des esprits, il y a des anges révoltés qui sont au service de la perdition des hommes, au service de Satan, pour les perdre, et qui animent les âmes. Alors, sur les téléphones portables, sur Internet, à la télé, plein de choses sont en train de souiller la conscience des enfants et des adultes, même des chrétiens. Alors, c'est une chose. Les esprits impurs, actuellement, dans nos sociétés, sont dominants. Comme ils étaient dominants à l'époque de Lot, à l'époque de Noé. La deuxième chose, c'est que l'impureté s'accompagne de l'alcoolisme, de la drogue, de toutes les addictions qui amènent à l'ivresse. On aime se saouler. On aime dans nos pays, ici en Occident. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne, partout en France. On aime boire, on aime manger, alors que plein d'autres n'ont pas d'argent pour se nourrir. Et dans les souleries, dans les beuveries, auxquelles on prend goût, dans toutes ces conduites qui semblent normales pour la plupart, qui semblent la norme dans nos sociétés. Oui, ça semble être la norme. Beaucoup d'argent à dépenser, beaucoup d'argent, alors qu'il faudrait aider des frères et des sœurs dans le monde qui sont dans la difficulté. Beaucoup, dans le monde, même à notre porte. Il suffit d'aller voir dans les gares, dans les villes, dans les métros, et puis même dans les autres pays. Mais quand on est habitué à la saoulerie et aux beuveries, on ne voit plus rien d'autre que ça. Et on ignore le reste. On ignore la souffrance des hommes, on ignore la compassion. On cherche des camarades de beuverie, de soûlerie, de coucherie. Et qu'est-ce qui se passe? Au grand malheur, beaucoup d'enfants handicapés apparaissent dans nos sociétés. Alors on a trouvé une astuce. On les élimine dans le ventre des mères. En faisant des échographies, on constate et on évacue. On avorte. Pour ne pas payer les frais de nos mauvaises conduites. J'ai parlé avec un gynécologue de métier, de mon âge, qui n'est pas évangélique. Je lui ai dit, mais monsieur le docteur, est-ce que vous pensez que Dieu a fait des enfants anormaux dans le ventre des mamans? Non, pas du tout, monsieur. C'est dû à la mauvaise conduite des humains. Il partage la Bible avec moi. C'est un homme d'expérience, de longue expérience, qui malheureusement pratiquait et pratique peut-être encore l'avortement. Mais il a été. Pensez bien, chers amis, que la mécanique spirituelle de la rébellion commence par la pensée. Quand dans la pensée, on met Dieu de côté, quand dans la pensée, on met la distinction du bien du mal de côté, quand dans la pensée, on dit « j'ai chacun sa vérité », chacun a droit à l'erreur, chacun a droit, mais toujours des droits, pas des devoirs devant Dieu. Chacun est sous l'emprise du péché et chacun va à sa chute, dans les coucheries, dans les souillures. Et les souleries et les beuveries sont à répétition dans nos pays. Plus il y a de problèmes financiers, plus il y a des problèmes de société, plus on mange, plus on boit ici. Je me demande toujours, où va-t-on trouver l'argent? Alors, autre chose, je vous ai parlé d'évacuation des enfants handicapés, des enfants qui sont anormaux dans le ventre des mamans, par l'avortement. J'ai parlé de ce médecin qui lui-même était bien conscient du problème. Maintenant, il y a la consanguinité, c'est-à-dire des gens qui, dans la même région, sans savoir son parent, qui ont du sang mélangé lors des fêtes, lors des rencontres, etc., des personnes ont pratiqué l'adultère, la débauche, et des gens sont parents entre eux sans le savoir. Et plus tard, des jeunes se marient sans savoir qu'ils sont cousins ou cousines, et il y a aussi des enfants handicapés à cause de cela. Et dans notre région, nos régions de Belgique, d'Allemagne, de France, il y a énormément d'enfants handicapés. Et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Ça serait interdit. C'est interdit. La façon dont je parle, je suis certain qu'il y a des milliers de gens contre moi. Mais le Seigneur a demandé que nous soyons dans la chasteté et que nous mettions notre relation sexuelle sous le regard de Dieu, sous sa direction. On ne peut pas pratiquer la sexualité, en tout cas en tant que chrétien, sans la direction du Saint-Esprit et sans véritablement s'être préparé au mariage et sans savoir quelles sont les responsabilités qu'on a au niveau matériel, financier, santé et reproduction de l'espèce humaine. On a une responsabilité. On ne peut pas engendrer des enfants qui vont tomber malades tous les jours parce qu'on s'est mal comporté. On doit avoir une très grande responsabilité vis-à-vis du futur, pour plusieurs générations. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut de son sexe. Et les esprits impurs ne doivent pas avoir d'autorité dans la vie d'un chrétien. Les esprits impurs en ont peut-être dans le monde, mais dans les églises. Pourtant, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Balaam, dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. C'est ce qu'on appelle Balaam, dans deux, trois églises de l'Apocalypse. Lisez le chapitre 2 et 3, vous verrez, il y a des églises où il y a l'esprit de Balaam. Ou les Nicolaïtes, c'est la même chose, les Nicolaïtes. Tout par la grâce, dans la tête, et en dessous de la ceinture, tout dans le péché, la débauche. Figurez-vous, je ne parle pas dans la théorie, j'ai eu de telles personnes dans mes fréquentations, même dans l'église, qui ne sont plus là, évidemment. Se développe, les personnes sont dans l'angoisse, sont dans le trouble. Ces personnes cherchent des apaisements, donc ils vont voir les médiums. Ils vont voir les gens qui prédisent l'avenir. Ils vont voir les gens qui lisent les lignes des mains. Ils vont voir les gens qui... Et il y a maintenant, ici, dans notre région, beaucoup de gens qui se disent « passeurs d'âme, venez avec moi, je vais vous mettre dans l'ambiance, je vais faire passer votre âme vers un autre monde. » Quel monde? Les esprits impurs, mes amis, les esprits souillés de Satan. L'occultisme s'est développé d'une manière considérable dans nos régions. Il y a beaucoup plus de gens occultes dans toute l'Europe que de prêtres et de pasteurs. 50 ou 100 fois plus. Et énormément d'argent est drainé par tout ce monde occulte. Toutes ces personnes qui vont auprès des gens occultes ou qui vont sous hypnose, etc., qui sont... L'enchantement, c'est cela, être sous hypnose. Maintenant, pour opérer même, on pratique dans certains hôpitaux, l'hypnose. Vous savez très bien que dans Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 20, il est interdit de fréquenter tous ces gens, sous peine d'être dans l'abomination, d'être rejeté par Dieu. Pourtant, énormément dans la population vont vers ces gens. Parce que, bien sûr, leur vie de péché crée le trouble et l'angoisse. Rares sont ceux qui viennent à Christ. Mais il ne faut pas se décourager. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons prier, et nous devons jeûner, et nous devons témoigner pour qu'il y ait des personnes qui viennent à Christ et qui sortent de ce bourbier dans lequel ils se sont mis. La médiumnité, l'occultisme sont l'œuvre du diable. Maintenant, je voudrais dire autre chose. Dans la rébellion, il y a autre chose. L'amour de l'argent, l'amour des belles maisons, l'amour des beaux châteaux, la cupidité, les jeux de hasard. À la télévision, il y en a beaucoup, énormément, vers 6, 7, 8 heures du soir. C'est l'animation des âmes vers la cupidité, vers l'argent. L'argent sans le travail, l'argent facile, l'argent du diable. Et le monde des affaires qui dirige le monde, qui aime l'argent. Nous, quand je circule dans la rue, je parle avec des personnes, tout le monde sait que le monde est dirigé par des hommes et des femmes qui dirigent, qui ont soif de l'argent, soif du pouvoir. Mes chers amis, ils ne se regardent jamais dans la glace pour dire « je suis comme eux » et je demande pardon à Dieu. Ils ne demandent jamais. Ils voudraient que les riches, les puissants changent. Mais on peut les supprimer. La Révolution française l'a fait. D'autres se sont mis à leur place. Toutes les révolutions par le sang ont mis des autres bandits, des autres menteurs au pouvoir. Et rien n'a changé. La seule chose qui peut changer, c'est renoncer au péché. C'est renoncer à la cupidité et à l'impureté. C'est les préceptes de base de la vie chrétienne. La sanctification passe par le refus de la cupidité et de l'impureté. Par amour de Christ, sous l'œuvre du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, au-delà de la cupidité, etc., il y a des gens qui utilisent des pouvoirs énormes. Tout à l'heure, j'étais dans une poste, j'ai sympathisé avec un ami chrétien, vraiment, qui est catholique, mais qui aime vraiment Christ. Mais derrière nous, assis sur une chaise, il y avait quelqu'un qui se faisait tout petit, et c'était un sorcier de l'islam. Un homme qui est payé par des musulmans dans ma région pour jeter des sorts à d'autres musulmans. Et qui fait du trafic de drogue. Et qui se fait passer pour handicapé. Mais quand il est tout seul, il marche droit comme un i. La magie blanche a toujours existé. Les sorciers ont toujours existé. Il y a des gens qui utilisent des pouvoirs. Ils ont des prières, des invocations à Satan. Je suis tombé sur des livres de ce genre. Tant venus de prêtres et de moines du Moyen-Âge que venus de l'islam. La magie blanche a un pouvoir énorme, destructeur dans nos sociétés. Et lorsque quelqu'un est vraiment malade, a des grands problèmes et qu'il va chez quelqu'un qui a un pouvoir de magie blanche, il va être guéri ou ses affaires vont se porter mieux et puis son âme va être liée et vous trouverez dans sa descendance des pédophiles, des pédérastes, des assassins, des menteurs, des cupides, des occultes. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec la magie blanche? Un peu de bien pour beaucoup de mal. Un autre point de la rébellion, c'est l'anthroposophie. En Europe, l'anthroposophie vient d'une déformation de l'hindouisme. L'anthroposophie a été lancée dans la cour russe avant 1917, avant que les bolcheviques, les communistes prennent le pouvoir, mettent en prison l'empereur et sa famille pour l'assassiner beaucoup plus tard. Eh bien, Madame Blavatsky, qui était une des grandes princesses de la cour du tsar, avait une énorme influence avec un moine Rasputin qui valait pas mieux qu'elle. Et Madame Blavatsky avait été en Inde. Dans le système hindou et bouddhiste, 639 réincarnations, on vit 640 fois. Mais après, c'est le karma, c'est le néant. On est l'anéantissement des passions, des péchés. C'est le néant. En fait, on se réincarne pour arriver à anéantir les forces du mal et pour vider la nature de l'homme de ce mal. On atteint le néant. Que vous le vouliez ou non, le nirvana, c'est le règne du néant, du vide. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Jésus n'a jamais prêché le vide, il a prêché la plénitude. Il a prêché la gloire du Seigneur. Ce grand peuple orthodoxe de Russie, qui était maintenu dans l'ignorance par tous ses prêtres et par ses princes, hein, comme avec Louis XIV, avec les catholiques, les jésuites et tout ça, eh bien, ce grand peuple a été séduit par le communisme, mais il a été aussi séduit par Madame Blavatsky. Un certain nombre de gens, de grands musiciens, de grands intellectuels sont devenus anthroposophes. Et c'est quoi anthroposophes? Eh bien, c'est que, en fait, on se réincarne, mais chaque fois, on retourne à la nature mère. La nature mère, Gaïa, nous donne des forces. La nature est divine, elle est Dieu. Et plus je communique avec la terre, plus je fais mes réincarnations, plus je fais mes méditations par le yoga et d'autres, je communie aux forces terrestres, donc je communie à Dieu. Et plus je deviens Dieu. D'où, dans les écoles de Steiner et d'autres, on étudie Bouddha, Jésus-Christ, tous les penseurs, Gandhi, etc., parce qu'ils ont tous de l'énergie terrestre, divine. Et de ce fait-là, l'anthroposophie est un grand mensonge. Le grand mensonge de Satan qui a été proposé à Ève et à Adam. Se passer de Dieu, se suffire de la terre. Et vos yeux s'ouvriront. L'anthroposophie a créé ses églises maintenant. Et elles ont des langages étonnamment proches du monde évangélique. Il y a énormément de personnes qui sont dans la rébellion et qui ne veulent pas dire qu'ils sont dans la rébellion. En 1789, la Révolution française, à cause que les Français étaient dégoûtés du monde de la hiérarchie catholique et des abus de la bourgeoisie, et des abus de Louis XIV et de tous les autres, la Révolution française a fait couler le sang. Quelques années après, dans la cathédrale de Paris, on a fait une grande cérémonie avec des évêques et les grands maîtres francs-maçons de la Révolution française, et on a présenté une femme en disant c'est la déesse raison. On a sacralisé cette femme, cette déesse raison. La déesse raison, c'est la mère du laïcisme français. C'est la mère qui se passe de Dieu, Jésus-Christ. En 1789, donc en 1850, les fruits de la Révolution française qui ont passé à travers le monde entier, en 1850 environ, un certain nombre de chrétiens évangéliques ont été aussi des révolutionnaires. On suit un peu la tendance du monde sans s'en rendre compte. Monsieur Müller, d'origine allemande, en Pennsylvanie, dit que Jésus va revenir et il réunit 15 à 20 000 personnes dans les prairies de 3 nuits en disant que Jésus va revenir. Puis Jésus ne revient pas, il demande pardon, il ne prêche plus jamais. Sauf que, 3 ans, 4 ans après, une dame qui était là dans l'assemblée, Madame White, a dit, mais non, Madame Ellen White a dit que Jésus était revenu. Et que c'était forcément Adventus, retour en latin, elle a créé l'église des Adventistes du septième jour. Donc Jésus est déjà revenu. Bon, ensuite est né de cela les témoins de Jéhovah, quelques années plus tard. Mais, chers amis, au même moment, à Hyde's Hill, à New York, c'est chose bizarre, Katia et Nadia Fox donnent leur vie à Satan, 16 et 17 ans. Elles ont 400 000 adhérents. Elles ont des démons de guérison incroyables. Et chaque fois que les gens s'appellent la magie blanche, chaque fois, les personnes étaient liées à Satan. Et le grand courant sataniste qui existe dans les mondes part de là. Et il a gangréné tous les groupes hard metal, hard rock, Hollywood, les films, etc. Et aujourd'hui, ils sont loin de disparaître. Il faudra Jésus-Christ pour les... Pendant ce temps-là, où les œuvres spirituelles démoniaques ont lieu, la triple entente est créée. La triple entente, c'est entre la Prusse, l'Autriche et la Serbie. La triple entente, c'est entre l'Italie, la Prusse, le nord de l'Allemagne à cette époque-là, et l'Empire d'Autriche qui était immense. Un peu plus loin, 20 ans après, la Sainte Alliance est créée entre la Pologne, la France et l'Angleterre. Et à force de se lorgner, de se regarder de chaque côté, étant hors de Christ, étant hors des principes évangéliques, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a tous les théologiens libéraux protestants qui nient les fondements de la Bible, et que de l'autre côté, chez les catholiques, il y a le siècle des Lumières, il y a les idées laïcistes, etc. La foi chrétienne est comme une peau de chagrin. À ce moment-là, l'un contre l'autre, et ça donne la guerre de 14-18 et 40-45. À la sortie de ces guerres, tous ces hommes et ces femmes qui sont partis à droite et gauche et qui n'étaient plus en famille ont appris à souiller leur vie de plus en plus. Je pourrais parler de beaucoup d'autres rébellions, chers amis. Hein? Beaucoup d'autres rébellions. Des abbayes ont fait de l'occultisme. Hein? Qui font de l'occultisme. Des francs-maçons. Des Rose-Croix, des vaudous. Des prêtres-soldats. Des moines-soldats. Des illuminés publics. Des illuminati. Des faux guérisseurs chrétiens. Des théories libérales. Des grandes corruptions. Les grandes corruptions dans les missions qui vivaient à 90% avec de l'argent de sociétés société financières et qui étaient là pour soumettre les populations indigènes. Pendant ce temps-là, se sont développés des grands penseurs athéistes, Machiavel, Ernst Bloch, Heidegger, Kant, Marx, Darwin. Nietzsche et Elisa, absolument, fille, enfant de pasteur, absolument, décidé à détruire les racines judéo-chrétiennes. Darwin, la même chose, a fait les études de pasteur. N'oubliez pas que Staline a fait les études de pope. Alors, Jean, l'apôtre Jean nous l'avait dit. Donc, après Nietzsche, Darwin, bien sûr, dont le grand héritier, c'est Hitler. Il y a, bien sûr, Sartre, Camus avec l'existentialisme, Maclon, qui a justifié les attentats, les meurtres, le docteur économique, politique et religieux, philosophique d'aujourd'hui, se passe royalement de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés. Ils n'en veulent pas. Et je vais vous lire une lettre que j'ai reçue. Vous donnez l'exemple de quelqu'un qui est très... à 23 ans, j'ai reçu beaucoup de courriers dans ma vie, à 23 ans, je ne dis pas le nom. Je suis ravi que les articles récupérés dans Le Monde vous aient beaucoup intéressé, cher pasteur. Mais vraiment, nous ne méritions pas tant de remerciements de votre part. J'aime participer de la sorte. C'est bien peu de choses. Pardonnez-moi pour les coupures, hein, pour Facebook, pardonnez-moi, mais pourtant le sujet est important. Je vous lis cette lettre. Je vais vous donner la documentation à des personnes dont je connais les aspirations et les spécialités. Là s'arrêteraient d'ailleurs nos convergences, car je pense faire partie des universitaires au laïcisme aveugle. Même si je ne cherche nullement, surtout pas même, même si je ne cherche nullement à rayer le Christ de la culture, à sa divinité, je ne crois pas en un Dieu qui soit venu se configurer à l'homme. Je ne crois pas aux fins dernières, je ne crois pas à une vie posthume qui m'arrangerait bien d'ailleurs. Quant aux témoins qui se font égorger, je crois leur foi, mais pas au... Je crois leur foi, mais pas au contenu de leur foi. Cependant, les religions sont au plus haut point parce qu'ils m'apprennent de l'homme, de ses aspirations nobles, souvent sublimes. Bref, seule l'espèce humaine et son devenir fortement menacée par le stock auto-génocidaire qu'elle fabrique, auquel aucune religion ne cherche à mettre un frein à cette course, à ce stock auto-génocidaire. Je n'y comprends rien. Pourtant, je ne veux pas éradiquer le Christ. La religion chrétienne me paraît bien trop riche et bien trop intelligente pour qu'on la néglige, à plus forte raison pour qu'on se consacre à l'éliminer. Mais il y a l'art, la science, je veux dire par l'art et par la science, l'humble acquisition patiente d'un savoir humble, patiemment soumis à la vérification. Quand avec les autres humains, laïcs ou incroyants, si vous n'aimez pas vos ennemis, en quoi êtes-vous mes disciples? Oui, j'aime le programme de Jésus-Christ. C'est une personne athée qui dit cela. Chers amis, il faut prier. Beaucoup. Ça fait 23 ans que j'ai cette lettre. J'en ai plein d'autres. Cette personne a besoin de Dieu. Comment voulez-vous? Sur le chemin de Damas, demandez la grâce, priez pour que ceux qui parlent comme ça puissent trouver d'en haut, par la venue, la révélation divine, une autre vision, une autre conception de Christ. Le Christ Jésus connaît nos cœurs, connaît nos pensées, il connaît de telles personnes. Je viens de lire cette lettre. Chers amis, Jésus est venu pour briser la rébellion. En un jour, il peut sauver, tous les jours, des milliers, des millions de gens. Et il le fait, aujourd'hui, avant sa venue, dans des pays hostiles à la foi. Il le fait, et donc, dans les pays hostiles à l'évangile ici, nous pouvons recevoir des grâces divines. Il faut jeûner, prier, implorer les grâces sur nos peuples européens, aveugles, hostiles, qui se perdent. Je vous en prie, chers amis, faites-le. C'est votre tâche. Et n'oubliez pas d'ouvrir votre bouche. C'est trop grave de ne pas parler de Jésus aux autres. Le Fils de Dieu. Quoi qu'il vous en coûte, faites-le. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la passion, alors que j'étais dans une famille incroyante, dans un milieu laïque, la passion, l'amour pour Jésus. Je le remercie infiniment. C'est un privilège énorme. Je n'ai aucun mérite. Demandez ce privilège énorme à d'autres. Je vous en supplie. Mettez-vous à genoux pour que le monde soit sauvé. Avant le retour de Jésus, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Priez, agissez, témoignez pour que les âmes perdues, il y en a beaucoup, n'aillent pas en enfer. La rébellion, oui, doit être brisée. Les rebelles adoreront Dieu. Le croyez-vous? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je crois que les rebelles peuvent adorer Dieu et aimer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Et je souhaite que vous priez avec moi tous les jours pour cela. Alléluia. Dieu est plus puissant que le péché de l'homme. La grâce de Jésus à la croix est bien plus grande, bien plus riche en gloire, en puissance que la